bienvenue sur Intercep, le podcast qui se glisse dans les interstices de vos vies de vigneronnes et vignerons.
Pour moi, c'est hyper important de montrer aux vignerons que le partenariat, même si millésime est moins réussi, ben on est quand même là en fait. Ben, on n'a jamais fini d'apprendre quand on travaille dans le vin en fait.
Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la fondatrice de l'atelier Soubiran et je vous accueille sur le premier podcast qui parle du monde du vin autrement. Transmission familiale, équilibre de vie, charge mentale, dans Intercep, nous prenons le temps d'explorer des sujets sensibles, parfois tabous, de notre monde viticole. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, l'entrepreneuriat, la communication et puis surtout, la rencontre avec des femmes et des hommes qui font le vin d'aujourd'hui pour, au fond, leur offrir à eux aussi un pas de côté et questionner leurs vibrations. Mes invités ont toutes et tous en commun une certaine étincelle, une capacité à interroger leurs freins et parfois pousser un peu les barrières. Loin de se revendiquer modèle, ils ont pourtant des choses, je crois, à nous partager. Laissez-vous embarquer dans leur histoire et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui aurez une anecdote lumineuse à nous raconter. Aujourd'hui, je suis avec Héloïse Ruzier. Héloïse n'est pas vigneronne, elle est acheteuse vin à Paris pour un acteur important du e-commerce. Cela fait quelque temps que j'avais envie d'interviewer sur Intercep des acteurs du vin non vignerons. Après tout, cette question des interstices du métier, cette question de la qualité de vie et de la passion, elle se conjugue aussi du côté de celles et ceux qui sont ce que j'appelle les passeurs. Quand j'ai demandé à Héloïse, je ne cache pas qu'elle n'a pas dit oui d'emblée. Pourquoi moi ? Eh bien, tout simplement parce que Héloïse est une personne à la fois très discrète, une grande bosseuse, je crois aussi une grande, grande passionnée, et qu'elle arrive à être, il me semble, émerveillée, curieuse et disciplinée à la fois. Alors j'avais envie de lancer ce premier épisode pas de côté avec elle. Dans cet épisode, on va parler de la folie des salons professionnels, de la gestion de son temps et de son énergie entre la ville, la vigne et les salons, justement, de la curiosité, de la discipline que ça nécessite un catalogue de plus de 900 domaines, de la place de la femme aussi dans ce métier du vin, et puis tout simplement de la responsabilité de ce métier de passeur. Belle écoute à vous. Bonjour Héloïse.
Bonjour Aurélie.
Alors Héloïse, peux-tu te présenter en quelques mots, peut-être en commençant par nous dire où tu as grandi, si tu as grandi à Paris, ou pas du tout, est-ce que tu as grandi proche ou loin des vignes en fait? Et puis, en quoi constitue aujourd'hui ton travail ?
Alors, j'ai grandi dans un petit village en Lorraine, village de 300 habitants. Et alors, est-ce que j'ai grandi proche ou loin de la vigne ? Je pense un peu des deux, parce que la Lorraine, historiquement, était une grande région viticole, et le phylloxéra a fait que ça a décimé vraiment quasiment toute la production. Et en fait, il se trouve que le nom de la rue de mes parents s'appelle le chemin des Lobottes. Et les Lobottes, c'était le nom des femmes qui ramassaient le raisin dans le temps. Et en fait, la maison de mes parents est sur un coteau et chez mes voisins, il y a encore de la vigne. Donc, un peu voilà, proche et loin, parce qu'aujourd'hui, on fait quasiment plus de vin, mais quand même un peu assez proche par cette proximité historique, finalement, du lieu.
Mais pas de vigneron dans la famille
Pas de vigneron dans la famille, non. Non, pas de vigneron dans la famille et des parents qui... Alors, une mère qui ne boit pas du tout d'alcool. Et un papa qui aime le vin, mais sans plus de passion, quoi.
Et pourtant, toi, aujourd'hui...
Et moi, aujourd'hui, je...
Voilà. Deux pieds dedans.
Exactement. Mes deux pieds dedans... Mais j'y suis venue par mes études, finalement, quand je suis allée étudier à Bordeaux après ma prépa. Mmh. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait choisir l'école. Donc, j'ai fait une école de commerce après ma prépa. Bon, j'ai quand même fait une prépa lettres, donc c'est vrai que c'était pas tout naturel de faire une école de commerce après. Mais Mais il fallait penser à en futur assez, comment dirais-je, plutôt les lettres, je voyais pas trop ce que j'allais y faire. J'adorais ça, mais à part être prof, il n'y avait pas trop de débouchés professionnels et c'était pas quelque chose qui me branchait plus que ça. Donc il y avait des possibilités de passer les concours, je les ai passés pour les écoles de commerce. Et en faisant le tour de France des concours, j'arrive à Bordeaux et puis je vois qu'il y avait cette association AOC, une association d'œnologie étudiante donc, et qui était hyper dynamique au sein de l'école et même au sein de la région. Ça m'a tout de suite très intriguée et c'est ce qui a fait que j'ai choisi en fait cette école-là pour rejoindre cette association.
T'as commencé par l'association pour...
Oui. Oui, tout à fait. Et donc ce que j'ai fait, j'ai rejoint l'association durant ma première année d'école. Et en fait, toutes les semaines, on organisait des conférences, des visites de châteaux. On organisait un gros événement qui s'appelle Rallye des 24 heures. On faisait un rallye automobile dans les vignes pour les étudiants. C'était un très gros événement. Et donc, voilà, ça a été mes premières... Finalement, la première approche professionnelle que j'ai eue avec le vin, parce qu'il y a toujours eu du vin à table quand même dans les repas de famille. J'ai un oncle qui est quand même très amateur, donc...
Et j'allais te poser la question, parce que pour que tu que cette association t'intrigue autant et que ça te motive autant pour intégrer l'école, c'est que tu avais quand même déjà quelques atomes crochus avec le vin.
Alors, c'était un produit que j'aimais, bien sûr, parce que j'aimais bien boire un verre de vin dans les repas de famille, mais finalement, je m'y étais assez peu intéressée. Ce qui m'a tout de suite assez interpellée, c'était la quantité de savoir finalement que le produit emmagasinait, parce que le vin, c'est une histoire, sont des hommes, c'est un sol, c'est un le climat, c'est hyper riche en fait comme produit. Il n'y a pas que c'est pas juste ce qu'on a dans le verre et ce qu'on déguste, c'est tout ce qu'il y a avant, pendant, c'est ça en fait qui m'a plu. Moi, je venais d'Hippocagne, de Cannes, donc il y avait quand même ce côté, cette sensibilité pour les sciences humaines qui était très très développée chez moi et qui l'est toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça a été assez, c'était très naturel d'aller vers ce produit-là parce que ça faisait appel un peu à tout ce que j'avais appris, tout ce qui m'avait plu aussi durant mes études, quoi.
Et du coup, aujourd'hui, te voilà à Paris.
Mm-hmm, tout à fait.
Loin des vignes, mais très proche du produit.
Ouais.
Quel est ton poste, Héloïse?
Donc, je suis acheteuse de vin chez IDL Wine, qui est un site de e-commerce.
Et alors, ça veut dire quoi, acheteuse vin? Parce que c'est quelque chose que moi, j'utilise beaucoup, évidemment, pour présenter les gens. C'est un titre qui est banalisé un peu aujourd'hui, mais vu de l'extérieur, alors, on l'utilise dans d'autres secteurs.
Bien sûr.
Mais c'est quand même, vu du grand public, acheteuse. Oui. c'est quand même drôle comme intitulé.
Oui, c'est vrai. C'est quand même un métier qui est assez récent. Enfin, de manière, d'une façon générale, la fonction d'achat dans une entreprise, c'est assez récent en fait comme fonction et encore plus dans le monde du vin parce que l'acheteur dans une entreprise l'acheteur c'est celui qui a comme pour rôle premier de finalement maximiser les coûts et la marge de l'entreprise ça c'est vraiment la fonction primaire de l'acheteur, c'est ça. Et c'est vrai que dans le monde du vin, ça a toujours plutôt été les cavistes, les sommeliers qui avaient cette fonction-là. Mais c'est un poste, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs vin, en fait, qui ne soient pas sommeliers ou cavistes, en fait, qui font ça pour une entreprise autre. Mais c'est plutôt un poste assez récent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à part cette fonction primaire dont je viens de parler, c'est établir toute une gamme, donc un portefeuille de vignerons, de fournisseurs. Donc bien sûr, quand je suis arrivée, il y avait déjà un existant. Hein, je n'ai pas tout créé, parce que ça fait presque 3 ans que j'occupe ces fonctions-là. Donc il y avait déjà quand même pas mal de domaines avec lesquels on travaillait, mais l'idée c'est de continuer d'enrichir notre gamme, donc d'aller trouver les vignerons et du coup de créer des relations avec eux, ou ouais, de les rétablir aussi, parce que c'était pas... Enfin, mon poste a vraiment été créé quand je suis arrivée, parce qu'on a deux métiers chez Edelwine, on est une maison de vente aux enchères et un caviste en ligne, et moi je m'occupe vraiment de la partie caviste en ligne. Et donc, en fait, personne n'avait ce poste-là à 100% avant que j'arrive. Il y avait toujours eu de l'idée de sourcing, mais au sens...
un peu transversal.
Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai été la première vraie acheteuse, en fait, à 100% de l'entreprise. Et donc, il a fallu créer des liens avec tous les vignerons quand je suis arrivée, parce que je ne les connaissais pas tous. Hein. Il y en a même beaucoup que je ne connaissais pas. Et donc, ça a été très important pour moi de commencer par là, ce qui n'était pas quelque chose qui se faisait trop avant. Et c'est vrai que loin de la vigne, parce qu'à Paris, mais finalement pas tant que ça, parce qu'on se déplace quand même beaucoup, beaucoup en fait.
Ouais, on va y venir, parce que c'est quelque chose effectivement qui est assez remarquable pour une structure comme la vôtre, de prendre le temps d'aller dans le vignoble. Mais là, tu viens de parler en fait de justement, tu as dit un truc très juste, il n'y a pas tant que ça de poste à cette mesure-là d'acheteurs autres que cavistes en fait, ou sommeliers pour parfois des groupes. Et du coup, arrête-moi si je me trompe, mais ça se sait vite dans le milieu que tu es, quand tu es acheteur ou acheteuse, sous-entendu, vous pouvez être très très sollicité par les agents commerciaux, par les vignerons eux-mêmes, par différents grossistes, et ça doit, c'est une part du métier, je pense qu'on ne voit pas forcément cette sollicitation, voire peut-être cette sur-sollicitation.
Oui, c'est vrai que c'est... En fait, il y a le... Comme le poste d'acheteur, on a toujours la sensation que c'est un poste qui est inhérent à des grosses structures et donc qui brasse un énorme volume, beaucoup d'affaires, mais pas nécessairement en fait, parce que nous on est, enfin moi j'achète des vins de qualité, on n'est pas sur le côté vin industriel, parce qu'il y a quand même, voilà, je pense qu'on peut le dire, plusieurs typologies de vins. Et nous, c'est vrai qu'on achète des vins d'artisans, en fait, de vignerons qui sont des artisans. Et donc, nécessairement, ce sont des vins qui ne sont pas produits en grosse quantité. Et donc, on va avoir travaillé avec beaucoup de vignerons. Et donc, c'est plus sur la quantité de vignerons avec lesquels on travaille qui fait finalement notre identité. Parce qu'on va toujours essayer d'aller chercher la petite pépite.
Vous avez un catalogue hyper large.
Ouais.
Tu saurais dire combien de domaines
Domaines partenaires, on en a 900.
Ah oui.
Ouais.
Alors, comment, je vais aller directement là-dessus, comment on gère cet apprentissage-là, ce puits de connaissances que ça nécessite, hein?
Ouais, déjà, il faut s'approprier le portefeuille existant quand on arrive.
Donc, tu t'es fait des fiches, tu en as collé partout chez toi.
Ouais, au début, si, parce que quand je suis arrivée, j'étais en train de passer mon Mindset 3. Et donc, oui, j'avais plein de fiches collées partout, parce qu'il fallait... C'est la prise de poste et en même temps ingurgiter le bouquin du Mindset. C'est assez costaud.
Avec toutes les spécificités des AOC, des terroirs italiens, australiens.
Exactement. Mais ce qui finalement était pas plus mal, parce que les deux en parallèle, ça a été assez efficace.
C'est exactement ça. C'est
voilà,
ça.
Tout à fait. Non, c'est vrai qu'il a fallu s'approprier, mais enfin, finalement, je me suis appropriée en discutant avec les vignerons et en étudiant la gamme de chacun, voir un peu quelle cuvée, qu'est-ce qui fait la spécificité de telle et telle cuvée. Alors évidemment, je retiens pas tout, c'est pas possible, mais à chaque fois que je me mets sur le sujet d'un domaine, je me replonge là-dedans pour me dire, ah oui, mais cette cuvée-là, bah, elle est spéciale parce qu'il y a ça, ça, et, ils font sa singularité. Et voilà, c'est bah, force avec le temps, ça rentre. Mais...
et puis effectivement, donc, tu disais, vous tu as l'opportunité de pouvoir beaucoup te déplacer.
Oui.
C'est une grande part, effectivement, de ton travail. Comment ça se passe? Vous allez, enfin, tu as l'autorisation de partir du bureau sur invitation d'un vigneron. C'est toi qui te dis là, il faut que j'aille explorer une région.
Ouais, c'est. Alors, il y a de temps en temps des invitations, mais la majorité du temps, c'est moi qui me dis bon, allez là, il faut y aller. Donc, parce que bah, là, je suis au bout de 3 ans, je n'ai toujours pas été voir tous les vignerons avec lesquels on travaille. Donc c'est
900 ou tu veux dire ceux de ton partenaire?
Non, ceux de mon partenaire.
Voilà, moi j'ai fait. C'est pas très sérieux.
Ceux de mon portefeuille, donc j'en ai à peu près 400. Donc j'ai quand même beaucoup de vins étrangers, je gère tous les vins étrangers aussi, donc ça c'est une grosse part qui est moins facile à aller visiter. Mais juste des vignerons français, j'ai pas encore été voir tout le monde, c'est parce que j'aime prendre le temps en fait. Quand j'y vais, c'est voilà, on prend le temps, on discute, on échange sur le domaine, les vins, le travail du vigneron, c'est pour ça qu'on y va en fait. C'est justement pour créer ce lien, c'est hyper important à mon sens d'avoir ce partage et ce temps-là. Pour moi, la relation commerciale, elle passe par ça en fait. On crée des. Enfin, moi j'estime que mon rôle d'acheteuse, c'est de créer des partenariats avec les vignerons. Et donc, pour créer un partenariat avec quelqu'un, il faut qu'on se connaisse. Et donc, c'est important de prendre le temps. Et voilà, c'est ce que je fais. Donc, quand je me déplace, je ne vais jamais voir beaucoup de monde d'un coup. Parce qu'il faut le temps de. Il faut prendre le temps. Et donc, oui, en général, c'est moi qui me dis bon, là, il faut qu'on aille dans ce coin-là, on n'y est toujours pas allé. Donc la semaine prochaine, je vais en Savoie. Jeudi, je vais en Champagne et la semaine prochaine, je vais en Savoie.
Est-ce que tu aurais, je ne sais pas si c'est à l'échelle d'une journée, je ne suis pas sûre que ça aurait beaucoup de sens, mais une semaine un peu type, est-ce que c'est... ou un mois un peu classique en termes de rythme de travail, de bureau, dégustation, salon, déplacement
d'année.
Ouais.
Pour envisager ça, parce que finalement, si on prend l'année, c'est plus facile de raisonner en termes d'année scolaire, parce qu'il y a les vendanges à ce moment-là. En gros, de septembre à mi-novembre, ça dépend des régions, mais les vignerons ne sont pas disponibles. Donc... c'est parce qu'il y a les vendanges, après il y a tous les travaux à la cave. En général, même à partir d'un peu avant, si on compte tous les travaux en verre, beaucoup ne peuvent pas non plus recevoir, hein, puisqu'ils sont hyper occupés à la vigne, ils partent quand même un peu en vacances l'été. Mais notre gros mois vraiment de déplacement, ça va être de mi-novembre jusqu'à fin mars, mi-avril, en gros. Où c'est là vraiment où c'est hyper intense parce qu'il y a beaucoup de salons. En général, sur une semaine, le lundi, on est en salon. Après, y a quelques déplacements ou des rendez-vous où on va rencontrer des vignerons. Et puis après, il y a le gros du travail où il faut passer les commandes pour quand même avoir acheté les produits, acheté les vins et les avoir en vente sur le site. Mais il n'y a pas trop de semaines type, en fait.
Ouais,
c'est un peu...
Mais effectivement, de le faire à l'échelle d'une année, ça donne quand même le spectre. Tu as quand même un rythme, effectivement. Moi, on se connaît depuis quelques années, on se croise en dégustation. Je t'ai moi-même invitée à des événements que j'ai pu organiser. Et donc, je vois bien... moi, je vois cette partie-là, en fait, de ton travail. Et je mesure aussi que à chaque fois que tu viens, tu peux pas venir à chaque fois. Enfin, je vois bien quand on échange que tu es en déplacement ou que c'est vraiment pas possible en termes de rythme de travail ou que tu es sollicité déjà ailleurs. Et comment tu gères justement cette charge de travail, conjuguer ces sollicitations, parce qu'il faut apprendre à dire non, j'imagine aussi. Et tout ça conjugué au rythme de vie parisien qui... comme chacun sait, est très paisible.
Très paisible. comment je gère Oui, il faut dire non, ça c'est sûr. Il faut pas répondre présent tout le temps, c'est pas possible.
C'est facile pour toi.
Bah oui, c'est. Enfin, disons que je sais un peu ce que j'ai à faire dans ma semaine, dans mon mois, on va dire, et puis je m'organise. Enfin, de toute façon, il faut que l'agenda il soit carré. Si l'agenda n'est pas carré, c'est pas possible de... Il faut vraiment avoir une organisation, une grosse rigueur de ce côté-là, parce que sinon...
Ça, c'est parfait, mais écoute,
merci. Oui, c'est pas possible, sinon, de... Et puis, bah, prioriser tout le temps, et alors... Après, il y a des choses où, bah, comme il faut prioriser, on répond pas rapidement. Et ça, c'est vrai que parfois, mes interlocuteurs ont parfois du mal à comprendre que je sois pas réactive dans mes réponses. Mais c'est juste pas possible. Si pour moi, c'est pas une priorité, bah, je vais répondre quand j'ai vraiment le temps. Et donc oui, je me ménage évidemment des plages où je vais faire que des journées où je vais faire que des commandes. Ou après, il y a aussi, il faut regarder tout l'assortiment du site. Hein. Dans notre, la fonction d'acheteur, c'est aussi contrôler ses stocks, contrôler ses prix. Il y a une part de chef de produit aussi quelque part, parce qu'on va décider de quel domaine mettre en avant. Donc toutes ces prises de décision, après, elles se font c'est du travail d'équipe, parce que je travaille avec toutes les équipes dans la société, donc l'équipe marketing, l'administration des ventes, pour il faut qu'on...
Oui, et d'ailleurs on l'a pas dit, mais t'as glissé un on tout à l'heure, mais quand tu vas dans le vignoble, c'est rarement seul, vous êtes souvent en binôme.
Oui, tout à fait. On va toujours à deux, j'y vais toujours avec quelqu'un du marketing.
C'est pas souvent écrire ou créer du contenu, et ça, c'est génial de donner la place. Ça rejoint un peu votre politique d'achat, c'est
tout à fait.
Faut qu'il y ait du sens, faut qu'il y ait du lien, et ça passe aussi par les mots.
C'est ça, et ça passe par les mots, donc dans un journal en ligne, on écrit sur nos visites dans le vignoble, on publie des photos de nos visites sur Instagram. Oui, c'est vrai que c'est du on, parce que même si c'est moi qui décide qu'on va aller à un endroit, comme je n'y vais pas toute seule, tout le travail qui est fait pour parler des vignerons et les mettre en valeur, il est collégial, c'est vraiment... c'est vraiment un travail d'équipe.
Tu dirais que tu es quelqu'un de passionné ?
Oui, je pense. Oui, je pense. Je pense qu'on n'arrive pas dans ce poste-là par hasard sans passion. Et puis, le fait de toujours avoir envie de se déplacer, d'aller en salon. Quand je suis en salon, j'ai certain rythme qui est assez effréné, parce que je veux être sûre de pouvoir voir le maximum de monde. Donc en général, là, il y a eu tous les salons professionnels. Enfin, il y en a eu pas mal qui viennent de s'écouler. Mais par exemple, quand je vais au Grenier Saint-Jean à Angers, je fais du matin au soir sans pause, sans non-stop. Parce qu'on travaille presque avec tous les domaines du salon. Donc... j'exagère, mais au moins... bon 60%, je pense.
Et ils sont nombreux.
Voilà. Donc, je m'arrête pas sur les deux jours, du matin au soir. Et puis, après, je sors en fin de journée et je suis rincée. Et je me fais manger un truc pour me requinquer. Mais c'est vrai que je m'impose un peu ce rythme-là. Parce qu'une fois que j'y suis, en fait, j'ai un peu cette espèce de faux mots. Je me dis, mince, mais je vais pas le voir lui, je vais pas avoir le temps d'aller saluer lui. Oui, et c'est vrai que c'est hyper frustrant, parce que toujours envie d'être d'échanger avec les gens sur...
Je trouve ça difficile, moi, à gérer des fois cette excitation conjuguée à cette potentielle frustration. Enfin, c'est qu'on en a, on sait qu'on va travailler la frustration de toute façon.
De toute façon.
Mais on est aussi sur quelque chose qui est physique, c'est-à-dire qu'on déguste, on goûte, on a tous nos sens qui sont quand même sollicités, et en plus d'être dans du mental avec des réflexions parfois de négo ou de juste d'apprentissage, de noter des infos, retenir des choses. Enfin, et c'est vrai que les salons, c'est un bon exemple un peu d'épreuve physique du métier. Et il y a cette saison effectivement hivernale qui est assez intense pour tout ce qui est acheteur ou presse, et tout ce qui est prescripteur, on va dire, au sens large. Comment toi, tu équilibres, parce qu'en plus, c'est en début de semaine, donc il ne faut pas être down le mardi, c'est que le début de la semaine, quoi. Comment tu gères ça, ce rythme-là ?
La règle d'or, c'est de cracher. Non, mais
c'est bien.
Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais Enfin, c'est ma règle d'or, en tout cas, c'est que sur les salons, je ne bois jamais. Sinon, ça me... Enfin, je sais que ça va me mettre KO assez vite. Donc, je crache systématiquement sur toutes les dégustations. Pour moi, c'est vraiment hyper important parce que ça fait partie quand même d'une certaine rigueur et une certaine hygiène de vie aussi. Parce que effectivement, bah, si dès le lundi... c'est la fête, après le reste de la semaine est hyper compliqué à gérer. Non, mais après, comment je gère, ben en général, je me repose beaucoup. Les semaines de déplacement, le week-end est assez calme. J'ai besoin de... Et puis je coupe aussi beaucoup. En fait, j'avoue que durant ces périodes hyper intenses, chez moi, je bois assez peu de vin, en fait. Parce qu'il faut que mon palais se repose. Moi, j'ai besoin de couper aussi intellectuellement. Parce que, en fait, nécessairement, quand je bois le quand je suis chez moi ou avec des copains, j'ai toujours ramené ça à ce que je fais. Ouais. Donc, je suis obligée de couper, de me ménager des moments de pause. Et quand je vois des copains, ben, on boit de la bière et ça me va très bien, quoi.
Voilà, meilleur conseil ever d'équilibre de vie. T'as d'autres choses qui te ressourcent au-delà de cette période de salon, j'entends, hein, dans ton quotidien de femme active à Paris. Qu'est-ce qui te permet aussi, qu'est-ce qui te donne des respirations? Est-ce que tu es quelqu'un qui, justement, tu as l'air de dire que tu te reposes certains week-ends quand tu sais que les semaines vont être très intenses? Donc le week-end est quand même cadré. Tu ne travailles pas le week-end?
Non. Non, ça je fais plus. Avant je faisais des salons le week-end, mais plus maintenant. Ouais. Sauf exception peut-être sur le Grenier Saint-Jean du coup.
Mais... C'est ça, ça commence le samedi, si je vous
le dis. C'est
ça. Oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est effectivement, si c'est une à deux fois dans l'année, ça reste des exceptions. Mais voilà, est-ce que tu prends des vraies vacances? Est-ce que tu coupes le soir à partir d'une certaine heure le téléphone? Enfin voilà, est-ce que tu fais une activité? Enfin tu vois, est-ce que quels sont tes petits tips à toi pour tes petits secrets?
Ben je cours.
Ah oui.
Ouais. Donc ça m'aide à débrancher quand même pas mal.
T'écoutes de la musique quand tu cours?
Oui. Oui, bien sûr. Alors j'écoute souvent un podcast qui s'appelle Les séries musicales, que j'adore, qui est hyper très intéressant, qui parle de la musique au sens large et de beaucoup de l'histoire de la musique, de certains mouvements musicaux. C'est très, enfin voilà, c'est toujours besoin quand même d'être un peu stimulé. Ça,
c'est pas off le
non
ça,
non c'est ça. C'est ça. Mais oui, ça aide. Je cuisine beaucoup aussi, donc ça aide pas mal à débrancher du reste. C'est enfin la cuisine c'est tous les jours ça, donc c'est quotidien. Ouais, donc ça aide aussi pas mal.
Pour toi, c'est important d'être à Paris, de vivre à Paris, par rapport à cette passion du vin?
Non, pas tellement, mais j'y suis venue par opportunité professionnelle, en fait, parce que j'avais trouvé, donc à l'époque, mon premier stage, en fait, était à Paris, et puis en fait, tous mes autres stages à Paris, mon alternance, et puis après, je suis partie vivre à New York. Sauf qu'entre temps, j'avais rencontré quelqu'un qui était à Paris. Quand je suis revenue, on s'est installé ensemble. Toujours à Paris. Donc, non, c'est pas. Enfin, je pense que j'aimerais être plus proche des vignerons et être en province, mais voilà, les aléas de la vie font que ce n'est pas possible.
Alors du coup, j'ai plusieurs questions qui me viennent, mais là, quand tu parles d'être rapproché de la vigne, en termes de voyage, pas forcément pour aller vivre, mais il y a une région du vin où tu aimerais particulièrement soit retourner, soit vraiment aller, parce que tu n'avais jamais été, tu sais que là-bas, ça va t'émouvoir. Puis...
Ah, c'est une bonne question. Où est-ce que j'aimerais aller? Oh, il y en a plein, je ne suis encore jamais allée, jamais allée en Corse. On a trop aller voir les vignobles de Corse. Ça, c'est... Il y a beaucoup de coins d'Espagne et d'Italie dans lesquels je suis jamais allée aussi, et que j'aimerais aller, ou j'aimerais aller, pardon. En France, j'ai quand même pas mal quadrillé. Et si je devais aller vivre quelque part, ce sera à Bordeaux, parce que ça a été un peu mon premier, la première région viticole que j'ai découverte, et celle, un peu. Il y a un peu tout pour moi. Il y a le vin, mais il y a aussi l'océan, la montagne, qui sont pas loin. Pour moi, c'est géographiquement, c'est assez intéressant comme région. Ce serait peut-être celle-là si je devais vivre ailleurs qu'un pas.
Magnifique. On est dans un métier, effectivement, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est compliqué d'être à ce niveau-là de responsabilité et d'engagement personnel sans être un peu passionné. Mm-hmm. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment, d'une rencontre ou d'une dégustation qui a particulièrement dégagé quelque chose en termes d'émotion pour toi?
Il y en a plusieurs quand même, mais une qui me vient tout de suite en tête, c'est quand on a été au Rock des Anges. C'était en juillet dernier, et là ça a été assez émouvant, en fait, de ce qu'il y a un attachement tel à la vigne et au vin de Marjorie et Stéphane. Ça m'a vraiment vraiment touchée, en fait, c'est pour moi, ça a été vraiment la visite la plus émouvante que j'ai faite. J'adorais leur vin avant d'y aller. Et en fait, le fait de voir leur rapport à la vigne, leur rapport aux produits qu'ils élaborent, pour moi, c'était vraiment un enfantement, en fait. Vraiment, ils sont dans un rapport au vin qui est celui-là.
Très charnel.
Ouais, qui m'a beaucoup touchée. J'avoue que je ne déguste plus trop leur vin pareil. Ça me touche encore plus quand je les déguste maintenant. À l'inverse, il y a aussi des fois où j'ai rencontré des vignerons et où je me suis dit, ah mince, en fait...
où est la magie?
Oui, c'est ça. Et du coup, on déguste aussi de cette manière-là, plus le vin de la même manière non plus. C'est vrai que c'est un rapport d'homme, malgré tout.
Oui, tu mets le doigt sur finalement ce par quoi tu as commencé en parlant de ton métier. En fait, l'importance de créer du lien, de connaître. Et en fait, là, c'est l'humain. Et le poids de l'humain dans notre métier, il est immense. Qu'on soit dans un métier très pragmatique sur le papier comme le tien, acheteur, on pourrait se dire que c'est face à un écran et qu'on regarde les chiffres et la rentabilité, fonction première. Et en fait, y a une énorme dimension affective, presque.
Bien sûr. Puis il y a quelque part une responsabilité, en fait, dans notre métier, parce que quand on achète un produit, on est dans la relation commerciale, elle est quand même assez forte, parce que c'est grâce à nous, mais c'est finalement ce qui fait vivre aussi le vigneron quand on achète son produit. Donc il y a quand même une responsabilité
et une pression, du coup, tu dirais.
Une pression, un peu.
Une pression, parce que justement, un vigneron où tu as une déception sur un millésime ou dans la rencontre humaine, justement. Est-ce que, c'est pas simple de dire tu t'arrêtes pas du jour au lendemain, j'imagine, te connaissant, mais est-ce qu'il y a des, il y a quand même, tu peux diminuer des commandes ou...
Non, même pas, parce que c'est, encore une fois, la logique du partenariat est que de tisser un lien qui est durable dans le temps, donc ça arrive des fois que des millésimes soient moins réussis que d'autres, ou qu'on s'entende moins avec certaines personnes, mais ça ne remet pas en question le partenariat qu'on a.
Oui, c'est plutôt dans l'inverse. Quand c'est positif, vous allez plutôt booster, quand il y a quelque chose qui dégage un peu plus puissant,
oui,
finalement, naturellement, vous allez en parler peut-être plus spontanément.
Oui,
et
bien
c'est
sûr.
C'est plutôt une logique positive, en
oui,
fait.
Oui, voilà. Mais au-delà de ça, oui, si... Enfin, justement, pour moi, c'est hyper important de montrer aux vignerons que le partenariat, même si millésime est moins réussi, ben, on est quand même là, en fait. Parce que ça arrive à tout le monde de se planter. En fait, c'est comme... le vin est un produit humain. C'est nous, enfin, ce sont les vignerons qui le façonnent. Mmh. Et aux aléas des millésimes, le millésime n'est pas toujours celui qu'ils ont espéré. Mmh. Et ces dernières années, pas du tout souvent. Donc, c'est vrai que oui, ça arrive. Et pour autant, bah, si on s'arrête juste parce que le millésime n'est pas réussi, bah, à quoi ça sert d'être partenaire, en fait. Et c'est ça aussi que j'aime dans mon métier, c'est qu'on ne va pas remettre ce partenariat en cause. Et aussi, on ne négocie pas, en fait, les prix. Ça, c'est hyper important pour moi, je trouve. On a cette responsabilité-là aussi, je trouve, de rétribuer le travail des vignerons à leur juste valeur, puisque c'est eux qui fixent le prix qu'ils estiment être bon pour pouvoir vivre et faire en sorte que leur exploitation soit pérenne. Voilà, c'est un sujet qui est très...
Très sensible.
Très sensible, très contemporain.
Et puis qui est très extrême, c'est-à-dire que moi, ce que si on caricature un peu, il y a effectivement le grand débat du moment, c'est la hausse des prix de certaines appellations ou régions qui s'emballent fort, et pas forcément du fait des vignerons d'ailleurs, mais voilà. Et puis il y a de l'autre côté des vignerons, beaucoup de vignerons très artisans, qui ne savent pas fixer un prix finalement qui va leur permettre d'être confortable dans la durée et de se prémunir un peu. Et soit qu'ils ne peuvent pas, enfin, voilà, y a plein de situations différentes, mais y en a beaucoup qui devraient monter leur prix aussi. Hein, et c'est vrai qu'il y a deux extrêmes aujourd'hui qui dessinent, je trouve, de plus en plus.
Oui, mais c'est vrai que parfois quand d'un côté le prix il y a un emballement, c'est vrai que moi je le dis mes interlocuteurs, parce que je trouve que c'est important de justement dans cette j'ai quand même une vision sur ce qui se vend aussi, et je vois bien que quand les prix s'emballent, mes clients ils arrêtent d'acheter parce que nécessairement voilà, tout le monde ne peut pas suivre, et à l'inverse quand certains vins sont peut-être en deçà de ce que j'estimerais être... voilà, quand je l'ai dit aussi aux vignerons, qui pourraient aller plus loin et qui pourraient vendre leur vin un peu plus cher et que ça continuerait à se vendre parce qu'ils font un travail d'exception et que la qualité du produit est là. Et... Oui, je trouve que c'est les deux sont... Et puis on a eu les discussions dans les deux sens, effectivement.
C'est aussi ça, ce métier d'acheteur, quand tu disais, tu parlais de responsabilité, je trouve qu'elle est aussi là. Elle est aussi là dans ce travail de relais, en fait, que tu as, en fait, entre le client final et du coup de transmettre ces infos-là aussi. Je trouve que c'est hyper important.
Oui, parce qu'en plus, j'ai quand même les clients au téléphone de temps en temps. On a on offre la possibilité aux clients de se constituer des caves et on leur fait une proposition de cave sur mesure. Et en fait, c'est les acheteurs qui font ça chez nous parce qu'on connaît les vins par cœur, et qu'on connaît bien les domaines. Et donc, j'ai quand même quelques clients au téléphone, souvent des clients qui sont déjà clients chez nous et qui veulent avoir du conseil. Et c'est vrai que j'ai ces échanges quand même assez réguliers avec eux, donc ça permet de... Enfin voilà, c'est pas que, comme tu dis, à travers un écran, en fait, le lien est aussi bien côté fournisseur que côté client, je l'ai des deux côtés. Puis comme on organise aussi des événements, je rencontre pas mal de clients régulièrement, donc j'échange dès que je peux avec eux. C'est hyper important d'avoir ce retour-là, évidemment. Mais...
J'avais envie de te poser la question d'un sujet aussi terriblement d'actualité, dont on a parlé de la hausse des prix, mais il y a aussi, je trouve qu'on est très très au contact dans nos métiers avec tout ce qui est climat. Tu parlais de la millésime des dernières années. Comment toi, quel est ton rapport à la fameuse éco-anxiété ?
Ouh, vaste sujet. j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec des vignerons, justement, parce que moi, ça me donne envie de pleurer qu'on revienne sur nos engagements environnementaux. Enfin, c'est pas le modèle de société que j'ai envie d'avoir. Et puis en fait, je travaille avec beaucoup de vignerons en bio, en biodynamie. Et c'est dur parce que ils sont seuls un peu. Enfin, moi, je suis hyper contente de justement les mettre en valeur et de pousser leur travail parce que je trouve que c'est hyper important. Parce qu'ils sont, il y a beaucoup de vignerons qui sortent des appellations parce que bah justement, aujourd'hui, le cas des appellations ne va pas assez loin dans la reconnaissance du travail artisanal, de ce qu'il faudrait faire justement pour anticiper tous ces changements climatiques, tout ça. Et il y en a beaucoup qui sont des vignerons avec lesquels on travaille, qui sont déjà, qui ont 10 pas d'avance sur la majorité de... Et c'est vrai qu'ils représentent une niche. et c'est pas... Ouais, c'est assez dur, en fait, de voir que... De voir qu'il n'y a pas plus de d'engouement et que ça prend... La mayonnaise ne prend pas plus, quoi. Et c'est hyper important pour moi, en fait, de mettre en avant leur travail pour tout ce qui est changement de modèle, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à inventer un nouveau modèle qui est différent de celui dans lequel on vit et on le dit mais on veut pas trop l'admettre. Enfin, ça va, c'est un nouveau modèle de vie, un nouveau modèle de production. Enfin, tout ça, c'est des choses qui nous touchent tous et qui vont dans notre façon de consommer. Évidemment, à ce niveau-là, j'essaye pour moi, l'acte de consommation est tout aussi important que l'acte de voter, en fait. Je trouve que ça a beaucoup de sens, en fait. Parce que finalement, quand on consomme un produit, on choisit quel modèle de société on soutient.
Ma question était aussi, et tu as très, très. J'aime bien la façon dont tu as l'aborder, parce qu'en fait, je trouve qu'on est confronté. De façon assez directe dans nos métiers, où on est effectivement en lien avec des vigneronnes et des vignerons très, très engagés. Donc on est au-delà de ce qu'on peut vivre dans les médias. Enfin, il faut quand même faire l'autruche aujourd'hui pour passer à côté de ce qui se passe. Mais je trouve qu'on y est confronté vraiment très quotidiennement avec nos métiers, tout en étant citadine. Et on peut se sentir très impuissante, on peut se sentir... cette expression d'anxiété, elle est assez... assez puissante, mais elle est assez révélatrice, effectivement, de ce que beaucoup ressentent aujourd'hui. Et dans le vin, c'est presque paradoxal, parce que le vin, c'est aussi la fête, le partage, l'insouciance. Et là, on n'y est pas du tout, en fait. Et du coup, effectivement, la façon que tu as eu d'aborder la question, je trouve assez, assez pertinente. Je ne te l'ai pas complètement dit, parce que je sais que tu étais assez... intriguée, pour le dire comme ça, que je t'invite au micro d'Intercept pour cette première un peu hors-série des passeurs, ce que j'appelle un peu moins les passeurs du vin. Mais c'est parce que, depuis que je te côtoie, je suis assez subjuguée par ta curiosité et ta capacité aussi à l'émerveillement. C'est quelque chose que j'ai ressenti plusieurs fois en t'observant en dégustation ou en te voyant aussi échanger avec les vignerons que je pouvais te faire rencontrer. Et je sais, donc on en a parlé, que tu es extrêmement sollicité, que tu as l'occasion de goûter de très grands vins, tant est que ça a un sens, cette expression de grand vin. Et tu as l'occasion là, de beaucoup voyager par toi-même. Comment tu cultives cet appétit? Comment tu cultives justement cet enthousiasme?
je crois que je le cultive. Pas trop, en fait. Parce que c'est... En fait, je suis hyper curieuse, donc dès que j'ai l'occasion d'échanger avec quelqu'un, c'est vrai que pour moi, ça me nourrit beaucoup. En fait, c'est ce qui donne du sens à mon travail. C'est vrai que... on en parlait, là, c'est la saison des salons. C'est un peu... Parfois, je traîne un peu des pieds le matin quand il faut y aller. Mais une fois que je suis là et que j'échange avec les vignerons, c'est là où je suis bien, je suis contente. Et en fait, je suis Oui, ça me remplit de, je vais dire de joie, mais, mais en fait, c'est hyper stimulant en fait de toujours être. Pour moi, j'apprends en fait toujours tous les jours.
C'est sans fin, en fait.
Ah bah oui, bien sûr, c'est sans fin. Évidemment.
Comme quand t'as découvert cette association AOC, en fait, ouais. Tu t'es dit, oh là là, je vais pouvoir continuer une hypocalypse forever.
Ouais, non, mais oui, c'était un peu... Mais c'est ça, en fait. Mais vraiment. Parce que pour moi, quitter la prépa... Alors, je sais que ça a été pas le cas de beaucoup de monde, mais ça a été un déchirement. J'adorais lire et apprendre, en fait. Donc, c'est vrai que... oui, ça a été un peu ça. C'était l'idée de continuer un apprentissage. Parce que je crois que... Bah, on n'a jamais fini d'apprendre quand on travaille dans le vin, en fait. C'est infini. On ne pourra jamais avoir tout goûté dans tous les pays, tous les cépages, tous les millésimes. Enfin, c'est impossible. Donc, c'est un apprentissage qui n'a pas de fin. Un peu comme avec la littérature, finalement. Ça, ça n'a jamais...
La culture, ouais. Voilà. Et ça se rejoint dans la culture avec Grégoire Rancé.
Est-ce que tu dirais que le monde du vin se prend trop au sérieux?
Oh bah oui. Évidemment qu'il se prend trop au sérieux. Je lisais un article, ben non, Le Monde du vin de qui est paru ce week-end.
Ah, c'est pas très joyeux, effectivement. Je l'ai vu ce matin.
Non, mais y a, les professionnels du secteur se posent beaucoup la question de comment faire venir les jeunes à la consommation de cette boisson qui est un peu trop... qui se prend trop au sérieux. C'est vrai que quand j'étais chez AOC, cette association étudiante, c'était notre mission, en fait. C'était de démocratiser le produit. Et c'est pour ça qu'on mettait les vignerons et les étudiants en relation. C'était...
Plus de passerelles, plus de...
Bien sûr.
En direct.
Exactement, en direct. Et évidemment, aujourd'hui, il y a encore toujours ce côté où il faut être connaisseur pour pouvoir boire du vin. Moi, je ne crois pas du tout à ça. J'avoue que je pense que tout le monde peut avoir des émotions avec le vin, que ce soit un petit comme un grand vin, comme tu dis aussi, tant est qu'il y ait des grands vins. Mais je crois que l'émotion, elle n'est pas que dans ce qu'il y a dans le verre, mais aussi dans les moments de partage qu'il y a autour du produit et les conditions de partage, de découverte. Donc, oui, je pense qu'il faut continuer à démocratiser ça. Moi, je crois beaucoup à ce côté très éducatif. Finalement, le vin, c'est quand même pas si compliqué que ça. Il y a juste beaucoup de choses à savoir. Mais c'est pas très compliqué. Non, mais c'est vrai, quand on y pense, c'est... Enfin, le vin, c'est un produit issu de la transformation du raisin.
Oui, si on en revient un peu aux fondamentaux.
C'est ça. Après, il y a juste...
C'est une boisson fermentée.
Voilà.
Issue de fruits.
C'est ça. Mais après, il y a juste... Bah oui, il y a plein d'appellations, il y a plein de cépages. Mais c'est plus, finalement, une nomenclature qu'autre chose, en fait. Ça, qui aide à appréhender ce produit fermenté. je pense qu'il faut l'aborder avec plus de détente et moins d'élitisme.
Aussi peut-être, ouais.
Oui.
Il y a une question que je t'ai pas posée parce qu'on est parti assez vite dans plein d'autres sujets que j'aime bien poser au début. Mais je trouve ça bien en fait de la poser plutôt vers la fin de notre échange. Et tu peux prendre un peu de hauteur ou être dans pile le même minute présent pour y répondre. Comment vas-tu?
Oui, je suis un peu fatiguée. oui, je suis un petit peu fatiguée de tous les salons de placement, tout ça, parce que c'est beaucoup d'énergie tout le temps dépensée. mais ça reste de la fatigue... positif parce qu'elle est comme je disais tout à l'heure, elle est intellectuelle. Après, il y a la fatigue physique de la dégustation, du déplacement, mais Mais ça, c'est pas le plus dur à récupérer, c'est plus devoir digérer un peu tout.
Et peut-être la charge de travail qui s'accumule.
Oui, bien sûr. Une... Bon, il y a un peu de ça.
Je parle un peu pour moi, peut-être, mais.
Non, bien évidemment, ça fait partie. Et donc, bien évidemment, toutes les relances, parce qu'il faut être rapide. Les sollicitations, comme tu parlais, dont tu parlais, parce que oui, il faut. Souvent, qui dit salon dit faire des retours de salon et donc passer des commandes, faire des assorts, tout ça. Donc, la réactivité qui s'accompagne de tout ça, qui est difficile à mettre en place. Mais non, mais sinon, ça va.
Et alors, qu'est-ce que tu vas faire là? Très concrètement, la saison des salons quand même se calme. Il y en a encore. Mon petit homme dit qu'il y en a encore sur Mars à Paris. rien à voir avec l'ampleur, en fait, de ce qui s'est passé entre le Wine Paris, le Grenier Saint-Jean, Millésime Bio, enfin, tous ces très, très grands routes qui ont chacun leur style, on va dire. Comment tu vas faire, là, très concrètement, dans les prochains jours pour récupérer de cette fatigue? Est-ce que, ça va se fonder beaucoup sur tes week-ends ou est-ce que ça va être des journées bureau plus calmes qui te permettent de récupérer ou pas du tout en voyant ta tête?
Non, pas des journées de bureau plus calmes, mais là je suis en congé donc voilà, j'ai posé 2 jours ce qui me permet aussi de faire un break finalement. C'est important de poser le cerveau
même si Aurélie vient tomber pour titiller un peu, mais
non mais c'est important de faire une pause aussi. Puis alors on a la chance de pouvoir faire du télétravail 2 jours par semaine, donc j'avoue que ça me permet de me lever toujours 1 heure plus tard ce qui est quand même un vrai luxe de pouvoir avoir un peu plus de sommeil dans une vie parisienne très mouvementée comme tu me disais. Parce qu'il y a le travail, mais il y a aussi tous les aspects sociaux qui vont avec la vie à Paris.
On a un peu des enfants gâtés, mais ça peut juste se jouer contre nous des fois, effectivement.
Ah oui, complètement. Les emplois du temps rallongent. Mais après, là, c'est vrai que ça va être retour quand même au bureau, et puis organisation à nouveau. Parce que là, j'ai repris la gestion de 3 régions. Dont la Provence, et en fait, là, tous les rosés vont sortir en mars. Donc en fait, là, je suis déjà en train de réfléchir à l'organisation de l'été et de la période estivale avec la consommation de rosés, la consommation de rosés est encore très marquée par la saisonnalité, donc ça s'anticipe, donc déjà là... C'est là maintenant pour cet été. Et puis une fois que j'aurai fait ça, il faudra penser au champagne pour la fin d'année. Donc c'est toujours... Il faut toujours avoir... voir
la 2 saisons d'avance.
Ouais, c'est ça. Oui, et puis aussi, on peut suivre quand même le millésime en cours parce que ça donne aussi des indicateurs sur... pour acheter et éventuellement ajuster les volumes. Parce que si le millésime 2024 n'est pas bon, il va falloir l'anticiper aussi. C'est important. Ça aussi, c'est hyper important de suivre le millésime en cours.
Et ça, c'est un peu comme les vignerons, quand ils organisent leur année, ils peuvent essayer du coup de piffer. Il y a la météo, puis il y a le pifomètre, pas l'intuition qui va permettre de savoir un petit peu ce qu'on fait ou pas. Si on arrache une plante, on y va cette année. Et toi, c'est est-ce que je prends une palette, je m'emballe ou est-ce que non, le millésime va être bon.
On n'est pas dans ces niveaux-là, justement, c'est ce qui est. On est quand même sur des niveaux d'achat qui sont plus ceux d'un caviste, sauf que nous, on a beaucoup plus de domaines que chez un caviste classique, en fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, en termes de volume...
Oui, non.
Pas sûr. Non, mais c'est important quand même. Même si pour moi, finalement, le nerf de la guerre, c'est plus le volume, souvent. Parce que réussir, comme on travaille avec des vignerons qui sont assez recherchés, prisés, réussir à acheter toujours un petit peu plus... c'est un peu plus le nerf de la guerre, quand même.
Sur les régions, effectivement, il y a les fameuses allocations, etc. Avec toutes les crispations que ça peut engendrer à côté vendeur, acheteur, revendeur.
Les frustrations des clients. Bah oui, mais là, il n'y a pas eu de tel vin. Bah oui, mais non, cette année, on n'en a pas eu. On a eu que 6 bouteilles et c'est parti tout de suite. Ça, c'est vrai que c'est...
Ça, c'est une réalité du métier qui, en plus, qui a pris quand même beaucoup, beaucoup de place ces dernières années. Je pense que tu l'as vécu, ne serait-ce que sur 3 ans à ce poste-là. Est-ce que t'as, justement, ça a pris, même en termes d'énergie, je ne sais pas si en termes de temps, tu pourrais le chiffrer, mais enfin, le quantifier, mais en termes d'énergie, moi, j'entends pas mal de... soit de domaines qui sont passés sous allocation, soit de distributeurs, plutôt, tu vois, agents ou grossistes, ou les deux, mais... Enfin, des fois, c'est des postes, c'est devenu des postes à part entière, quelqu'un qui s'occupe de la gestion des allocations, tellement c'est un sacerdoce, en fait.
Bien sûr, il faut faire plaisir à tout le monde, en fait. Enfin, tous les clients qui étaient là chez les domaines doivent être servis. Donc, Et puis, bah, parfois, il y a aussi la volonté de faire rentrer quelques nouveaux clients, parce que, bah, au gré des rencontres, oui, j'imagine que c'est vraiment un exercice d'équilibriste. Et après, voilà, ça fait partie du jeu. Moi, j'essaye de sur tout ce qui est sous allocation, d'en avoir un peu plus.
Oui, oui, c'est ça. C'est... Voilà. Mais c'est là aussi où il y a le lien.
Bien sûr.
Le lien. Et puis c'est vrai que tu parlais du lien avec les vignerons, mais des fois, il y a des intermédiaires que je viens de citer. Et il y a le lien avec ces personnes-là que tu dois aussi cultiver.
Bien sûr.
Pour voilà, avoir la réactivité en place, et puis pour être bien placé, si on est un petit peu opportuniste, sur ces sujets-là.
Oui, mais bien sûr.
Ça se fait, je pense, assez naturellement à partir du moment où il y a une relation sur l'enseignement du catalogue.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai que le lien est hyper important. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place quand je suis arrivée, parce que c'est pas quelque chose qu'on faisait trop avant. Mais c'était... je suis arrivée pile au moment où, voilà, on savait que 2021, c'était pas du tout un salé. Enfin, moi, je suis arrivée en juin 2021. Et donc, 3 mois après, les vendanges 2021... Enfin, on savait déjà que le millésime avait été bien amputé, mais il faut toujours quand même attendre les vendanges pour avoir vraiment le bilan un peu de ce qui s'est, de ce qui va vraiment être produit. Et ouais, je suis arrivée vraiment en plein milieu de ce côté très difficile où... Ah bah oui, mais il n'y a pas de vin à vendre, en fait. Donc ça a été hyper compliqué. C'est vrai que pour je côtoyais quand même déjà des vignerons un peu avant, donc évidemment je savais comment ça se passait, quelles étaient la relation qu'ils entretiennent avec leurs clients professionnels. Et moi, je me suis tout de suite mise dans l'optique où je me suis dit, mais en fait, évidemment que aujourd'hui on fait beaucoup la reproche à certaines régions de tout vendre plus à l'export qu'en France. Mais oui, mais si l'importateur, je sais pas, américain, il vient tous les ans ou 2 fois par an, et ça depuis 20 ans, c'est évidemment qu'il y a une relation de confiance, d'amitié qui se crée au fil des ans, et que le vigneron, il va faire confiance à cette personne-là pour lui confier tout le fruit de... Enfin, le fruit de son travail, parce que c'est quand même... c'est un métier qui est quand même hyper difficile d'être vigneron, donc évidemment on n'a pas envie de confier tout le fruit de son travail à n'importe qui. On a envie que ce soit mis en valeur et que ce soit bien représenté
et
défendu, bien sûr. Donc c'est normal que ils aillent confier leur production à des gens qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Et moi, ça a été tout l'enjeu un peu de créer cette relation de confiance, en fait, qui est hyper importante.
Bon, justement, c'est dans le coup dur aussi.
Bah oui, et ces moments de coup dur, que ce soit dans un cas où il y ait peu de production, comme on le disait tout à l'heure, s'il y a peut-être un millésime qui est un peu moins réussi, montrer quand même que voilà, il y a la confiance est là malgré tout, et qu'on sait qu'ils vont savoir rebondir. Et...
C'est bien de le souligner, parce qu'on n'entend pas souvent, en fait, il y a quand même beaucoup, heureusement, d'acteurs du vin qui sont dans cette philosophie-là, mais c'est pas toujours vraiment énoncé, donc je trouve ça bien. Il y a une question qu'on n'a pas du tout abordée je m'en rends compte, c'est... Enfin, en fait, là, on a prononcé plusieurs fois le mot de confiance entre, entre les différents acteurs, vignerons, acheteurs, etc. Qu'est-ce qu'il en est de la confiance en soi quand justement on a ces responsabilités-là qu'on a parlé, qu'on est une femme aussi, qu'on ne vient pas spécialement du monde du vin. Est-ce que tu peux...
C'est... Oui, ça peut être quelque chose de compliqué au départ. Ça a été compliqué au départ. Parce que il a fallu que je me construise une légitimité un peu finalement. Et ça, en fait, je l'ai fait par mes études. Enfin, j'ai quand même deux masters, le Wineset 3. Et puis, je continue à beaucoup lire et à beaucoup m'informer sur le vin. Donc, j'arrête jamais d'apprendre. Mais c'est vrai qu'au départ, je me rappelle les premières tournées que j'ai faites quand j'étais à New York. Pour vendre, donc il fallait aller. J'accompagnais les équipes de commerciaux, je faisais du marketing pour un portefeuille de vin, et donc j'accompagnais les commerciaux pour les aider dans la mise en valeur justement des domaines et des vignerons. Et en fait, le côté français aidait quand même un peu sur le côté légitime. Ça, c'était OK. Mais le côté, je suis pas du monde vigneron, ça, c'est vrai qu'il a fallu se construire tout ça. Et en fait, c'était la connaissance qui a fait que... On gagne confiance, en fait, en confiance en soi. Mais au départ, oui, ça n'a pas été très facile. Et puis après... le fait d'être une femme, ça, c'est toujours hyper compliqué. C'est pas... pour moi, c'est pas un enjeu de confiance en moi ou pas, là-dessus, mais c'est plus... c'est compliqué d'évoluer dans un milieu qui est quand même majoritairement masculin. En fait, les interlocuteurs, souvent, peuvent être surpris un peu de la fonction que j'occupe. Ça, c'est assez marrant, presque, parce qu'on ne s'attend pas à voir une femme dans un poste comme le mien. Et puis jeune aussi, mais évidemment, bon, ça, c'est encore... ça, c'est encore autre chose. Parce que oui, il y a... Évidemment, il y a toujours du sexisme et du jeunisme. Non, de l'agisme, pardon, pas du jeunisme. Non.
Ça ne me choquait pas. J'avais l'idée.
Bref, peu importe. Mais en tout cas, oui, il y a toujours ce côté où, quand on est jeune, une femme, on ne peut pas être pertinente dans ces fonctions-là ou dans ce poste-là. Et je le vois bien que souvent, ça surprend mes interlocuteurs qui ne me connaissent pas. Mais rapidement, finalement, il n'y a pas trop de sujets puisque je sais de quoi je parle et il voit bien que je ne suis pas une touriste. Donc... Mais c'est vrai que en salon, ça peut être compliqué à gérer, ça, par contre, le fait d'être une femme. Parce que souvent, se faire pousser par des hommes, parce qu'il faut absolument que ce soit eux qui aient dégusté. Ça m'arrive, mais hyper souvent. C'est assez frustrant, en fait, de voir ces attitudes-là et ces comportements un peu nazes. Mais oui, après, ça, le monde du vin change et de plus en plus de femmes de toute façon à y travailler, donc moi, si je m'inquiète pas trop là-dessus, je pense que le train est bien en marche, et ça m'est déjà arrivé de faire des réunions où nous n'étions que des femmes. Et ça, c'était assez c'est assez important pour être souligné quand même.
Merci, ça fait du bien aussi pour entendre ce genre de choses.
Non, mais c'est vrai, je pense que c'est hyper important. Et d'ailleurs, ces fois-là, à chaque fois, on s'est dit « Ah ben, en fait, on n'est que des femmes. » Parce qu'on était aussi contentes de voir que, oui, en fait, nous, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des mecs pour parler de vin, en fait.
Exactement. sans être pour autant dans une démarche à ce moment-là revendicatrice ou autre.
Ah ben non, c'est juste que de fait, tous les interlocuteurs, enfin les interlocutrices, pardon, oui, effectivement, n'étaient que des femmes, donc c'était par la force des choses en fait.
Alors, ce podcast, tu l'as compris, hein, ça se joue des respirations, un pas de côté pour questionner un peu les coulisses du vin. Là, on a bien exploré le côté de ce métier un peu fascinant d'acheteur, acheteuse, pour questionner aussi certaines habitudes et trouver un peu d'inspiration, peut-être pour certains auditeurs d'introspection. Est-ce qu'il y a un sujet que tu souhaiterais aborder que j'ai pas du tout, sur lequel j'ai pas du tout été?
Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour, ouais, je crois. C'est important pour moi quand même qu'on parle du côté femme dans le monde du vin, parce que ça aussi c'est un sujet tout à fait d'actualité, hein, mais je crois que le combat n'est quand même pas fini, hein, et heureusement les générations se renouvellent, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup eu affaire à des comportements quand j'étais caviste, notamment d'hommes qui ne veulent pas être conseillés par une femme ou qui ne me considéraient pas comme légitime pour les conseiller. Et ça, c'est hyper dur à vivre, et pour la confiance en soi justement, ça c'est dur quand même à encaisser un peu.
Alors si, du coup, tu me fais penser à une question. Est-ce que tu aurais... parce que du coup, j'ai des noms qui me viennent en tête quand tu dis ça. Je ne dirai rien, mais je vais te laisser parler par contre. Est-ce qu'il y a des rencontres dans le vin, que ce soit à côté marché, terrain, achat ou vigneron, qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué justement, avec des bons conseils judicieux ou avec une présence, ou quelqu'un que tu n'as pas forcément rencontré, mais une figure qui t'inspire en fait?
Oui, quand j'étais caviste, je travaillais avec Thomas Bravo Maza, qui a fait plein de choses dans le vin. C'était la journaliste à l'RVF, qui a fait des documentaires, qui a travaillé avec Jean-Pierre Coff. C'est vraiment un puits de science et m'a beaucoup inspirée. Et c'est vrai qu'on pouvait déguster n'importe quoi à l'aveugle, il savait toujours... au moins trouver d'où ça venait et le millésime, quoi. C'était hyper impressionnant. C'est un peu mon objectif. Voilà, c'est un peu ce vers quoi j'aimerais tendre. C'est hyper compliqué d'être bon en dégustation à l'aveugle, mais je m'entraîne. Et c'est vrai que, ouais, il a été... on a beaucoup échangé sur le vin, lui et moi, et c'était hyper intéressant de travailler avec lui. Toute son expérience était assez impressionnante par rapport à tout ça. Et après, oui, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, de vigneronnes et de femmes du monde du vin qui m'inspirent parce qu'elles mènent des combats légitimes. Je pense à Fleur Godard, notamment, qui a son agence Vin et Volaille, avec Isabelle Perrault, que je ne connais pas en revanche, mais je l'ai rencontrée une fois sur un salon il y a très 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 longtemps. Mais on avait, à l'époque, il n'y avait pas eu ce MeToo du vin. Donc, il n'y avait pas encore de sujet. Je trouve que c'est hyper important ce qu'elles font avec Peyton Pinard, et avec toutes leurs prises de position et de parole. Il faut parler de tous ces sujets-là. Si on n'en parle pas... les choses ne changeront jamais. Donc,
oui, évidemment, c'est bien que tu le cites parce que ça était un petit peu en creux quand tu as dit le train est en marche. J'ai effectivement pensé à ça et c'est bien que ce soit toi qui l'amène, je trouve.
Ah mais oui, mais il ne faut pas se leurrer, il y a encore des violences dans notre milieu envers les femmes. Hein. Ça reste quelque chose, comme dans tous les milieux, hein, de toute façon.
Oui, même des violences... peuvent paraître minimes, mais ce que tu disais, de se retrouver en salon et parce qu'on est une nana,
ouais,
et qu'on ne fait pas 2 mètres sur 3,
Oui, bien sûr. On se fait bousculer, mais c'est...
Et on peut même... Enfin, on tombe des coudes avant d'arriver d'accéder à la table.
Oui, ah bah maintenant, moi, je patiente. J'attends que tout le monde ait fini de déguster. Et comme ça, après, je peux m'avancer tranquillement devant le vigneron. J'ai arrêté de m'énerver. Parce qu'au début, ça m'irritait vraiment, en fait, ce genre de comportement. Et en fait, je me suis vite... rendu compte que c'était pas moi en fait qui était problématique, c'est eux qui me poussaient.
Et c'est aussi aux vignerons et aux vignerons qui font déguster d'être sensibilisés à ça. Et effectivement, mais c'est pas facile. Mais
ouais, c'est pas facile pour eux, ils ont déjà à servir 18 personnes en même temps.
Et tu te souviens de quel ordre qui déguste ouais, quoi ça. ça m'impressionne toujours.
C'est hyper dur en salon, enfin ils sont. Donc, oui, évidemment. Mais d'ailleurs, il y en a certains qui le disent hein, quand ils le remarquent. Il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé sur un salon. Le vigneron a bien dit au monsieur qui m'avait poussé que voilà, il fallait pas.
Il y en aura pour tout le monde.
Voilà. Donc, ça arrive, hein, mais c'est vrai que parfois ils sont tellement sollicités qu'ils s'en rendent même pas compte. Donc, moi, là-dessus, je leur jette pas trop
la pierre. Non, mais c'est plus. Je le disais plus dans le rôle, c'est non pas tant de leur responsabilité que la responsabilité de tout le monde.
Ah, bien sûr, voilà. Mais de tous les gens qui assistent au salon, d'ailleurs. Ouais. Et puis, oui, bien sûr. Et puis, finalement, c'est un peu communiqué sur. Comment se comporter dans un salon professionnel. Oui, non, mais en fait, beaucoup de gens n'ont pas ces codes de professionnalisme, parce que quand on est dans un salon de vin, on est dans des salons professionnels. Et oui, ça arrive encore de voir des comportements qui ne sont pas appropriés, voire même des gens qui sont bourrés. Enfin, hein, souvent, les deux vont de pair, hein, d'ailleurs. Mais... être professionnel dans le monde du vin, c'est... aussi faire preuve de bienséance. C'est peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé et que finalement on n'aborde jamais, mais la question de l'alcoolémie, enfin ça c'est un sujet dans notre milieu et c'est vrai que c'est hyper tabou, personne n'en parle. Parce que oui, quand on nécessairement le niveau d'alcoolémie monte dans les événements, si on ne prend pas soin de faire attention, on est vite saoul. Oui. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez tabou et qui ne devrait pas l'être, en fait. Et quand j'étais à l'école, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul prof qui nous a parlé de ça. Ça m'avait d'ailleurs assez choquée que... Et lui, nous en avait parlé parce qu'il avait vécu quelque chose de très personnel par rapport à ça, c'est que l'un de ses meilleurs amis était mort d'alcoolisme, en fait. Et donc, il sentait le devoir de nous en parler en tant que futur professionnel du vin. Parce que ça peut être assez pernicieux, en fait, comme problème. Parce que, nécessairement, on est amené à boire du vin régulièrement... Et sans s'en rendre compte, peut-être tous les jours. Donc il faut savoir le gérer, c'est pas évident. Et pour pas tomber dans le côté automatique et addiction, parce que c'est une vraie maladie aujourd'hui, l'alcoolisme. Et c'est vrai qu'en tant que professionnel, ça peut être parfois un enjeu à gérer. C'est pour ça que moi, je me maintiens cette rigueur, comme je disais tout à l'heure, de toujours cracher quand je suis en salon ou dans des événements, parce que, ou alors, s'il n'y a pas de crachoir, je bois très très peu. Je trempe mes lèvres parce que ça me paraît très important de garder le contrôle, la maîtrise, pas tomber dans un travers. Pour moi, il y a la sphère du privé qui, oui, peut engendrer des états seconds, et c'est normal, et c'est aussi pour ça, on aime aussi ces états-là, ça fait partie de la magie aussi du vin, mais dans la sphère professionnelle, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas acceptable.
Merci d'en parler, parce que, effectivement, c'est en fait assez tabou, Et on peut vite être perçu comme le ou la, un rabat-joie.
Vous êtes accélériste.
Oui, voilà. Et sans pour autant aller dans le sens voilà, du vin sans alcool et de ces débats-là, qui sont presque encore d'autres débats, j'ai envie de dire. Mais d'être dans... Justement, il y a cette première étape-là de se rappeler quand on est en salon pro, quand on est en déjeuner pro. En fait, on peut tout à fait faire un travail formidable de dénicheur, de promotion des vins sans tomber tout le temps dans l'ébriété, voir la souris, en fait.
Ah mais bien sûr, de toute façon, une fois qu'on commence à être dans un état d'ébriété, on déguste plus bien. Déjà, en dégustant toute une journée, à la fin de la journée, on sait qu'on déguste plus bien. Et donc, quand je dis déguster, ça sous-entend cracher, évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous les débats, il y a un peu deux chapelles. et dans notre milieu, il y a nécessairement la chapelle des pro-consommations versus les anti-consommations qui ne seraient pas dans le milieu du vin. Et moi, je crois assez peu à ces débats-là.
En fait, derrière, moi, il y a quelque chose que tu viens soulever qui est peut-être aussi... Normalement, quand tu distingues sphère privée, sphère professionnelle, c'est souvent qu'elles s'entremêlent dans ce milieu-là. Et c'est là où, en fait, tu peux, un caviste, si je prends l'exemple d'un caviste qui a pignon sur rue dans Paris, qui est ami avec certains vignerons qui défendent, pas tous, à un moment, le vigneron passe sur Paris, il a envie de lui offrir un coup, même s'il travaille à... Voilà, si je prends un exemple où les deux peuvent se... Alors voilà, je ne dis pas que tous les soirs, le caviste est pareil pour un restaurateur ou un sommelier qui, de temps en temps, par exemple, je prends l'inverse, un sommelier qui va sur le terrain rendre visite à des vignerons avec qui il travaille. Bon, il y a certains avec qui il a une relation. Tu parlais des importateurs aussi, qui parfois sont là. On sait qu'il va y avoir des repas arrosés. Certains vont cracher systématiquement, mais on sait qu'à un moment, on est dans un métier de convivialité où le côté... Tu vois, et là c'est compliqué. Il y a la question de l'équilibre de vie, comment on récupère la fatigue, même sans en crachant, il y a quelque chose d'une fatigue physique. On sollicite quand même vachement l'organisme. Et on sait que par capillarité, il y a de l'alcool qui est ingéré dans tous les cas, etc. Mais il y a aussi effectivement ces soirées, ces moments de convivialité qui sont parfois, même si on est dans l'amitié pure, c'est du lien, c'est de ce qu'on appelle du RP.
Oui, après, je dis ceci, les moments intimes, si tu veux. Enfin, pour moi, quelqu'un qui... Si on voit un vigneron, qu'on va boire un coup parce qu'il est là à Paris, et que ça s'improvise, ça reste de l'ordre de l'intime, en fait, et du privé. Et pas du... Le professionnel, pour moi... prend place quand on n'est plus tout seul avec le vigneron, en fait, et qu'on a ou quand on est en représentation. Oui, ça m'est déjà arrivé de faire des visites de vignerons avec mon compagnon qui n'est pas du tout dans le milieu du vin.
Pour le couple, c'est ça, c'est
voilà,
ça, c'est l'arrivée de nos métiers.
C'est ça.
Peut-être que quand tu iras en Corse un jour.
Peut-être.
On coupe des fois des vacances des visites.
Évidemment.
On essaie des fois de s'organiser parce que c'est aussi les avantages fabuleux de ce métier. C'est qu'on peut en profiter. On donne beaucoup, mais c'est normal aussi de profiter d'être dans une région et de se dire du coup, je pose des jours de congé là. Et des fois, on va pas dire aux chéris ou aux copains de.
Tu veux rester.
C'est ça.
Non, évidemment. Mais c'est vrai que ça restait quand même, malgré tout, un échange professionnel parce que on était là pour apprendre, même s'il était avec moi. Lui, finalement, apprenait aussi le travail du vigneron, qui ne connaissait pas non plus. Donc, c'est vrai que. Il y a ce côté où on se met toujours... Enfin, moi, à chaque fois que je vais voir un vigneron, je me mets dans ce rapport d'apprentissage. Et donc, nécessairement, il y a un rapport de professionnel à ce moment-là, à cet instant T-là. Après, si ça va sur des repas et des restaurants, enfin, un resto ou un truc comme ça, c'est plus... c'est oui, il y a du le privé qui va s'interstisser là-dedans. Et... oui, c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a, enfin, je pense que voilà, c'est
il y a une vigilance.
La vigilance et les temps, le moment aussi où tu, enfin voilà, savoir un peu faire la différence entre les différents moments. Je pense. Après, c'est ma vision des choses, mais.
Mais c'est bien de le mettre un peu sur la table. Justement, c'est des sujets qu'on peut. Je pense que je m'amuserais à reposer un peu cette question. Qui à travers ça, il y a aussi cette question de la frontière tellement poreuse, voire inexistante, entre pro et perso, notamment pour les vignerons, souvent.
Bien sûr.
Qui ont des vies très intenses et les clients sont des ennemis. Enfin, pas toujours, heureusement. Ça serait ingérable, mais c'est vrai que c'est très souvent le cas pour certains et même pour des professionnels à Paris. C'est intéressant comme piste de réflexion. Merci beaucoup, Héloïse. C'était intense de réflexion. J'en attendais pas moins de ta part. Donc, merci beaucoup d'avoir osé le jeu. Je sais que c'est pas un exercice évident et complètement spontané pour toi.
Bon, oui.
Mais merci beaucoup.
Merci, Aurélie.
Merci pour votre écoute et votre curiosité. J'espère que cet épisode vous a plu. Et merci encore, Héloïse, d'avoir joué le jeu de l'interview et de t'être ainsi un peu livrée à mon micro. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire vos retours, nous poser des questions, nous écrire des commentaires. Et si vous avez des questions à poser à Héloïse, évidemment, on lui transmettra. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.